Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Quand on évoque Churchill, on pense immédiatement au héros de la Seconde Guerre mondiale. L'homme intraitable, opiniâtre, dont la force de conviction a entraîné tout un pays vers la victoire. Aujourd'hui, ça semble presque évident, mais tout n'a pas été si facile. Et pour en arriver là, Winston a subi de grands moments de solitude. Winston est un rejeton de la haute aristocratie anglaise. Son père n'a pas eu la carrière qu'il souhaitait et il est mort relativement jeune. Winston veut réparer cette ambition déçue et aussi prouver sa propre valeur à un père qui n'a jamais voulu l'avoir. Son ambition est très tôt affichée. Sa formation militaire, ses expériences sur le terrain doivent servir sa carrière politique. En 1899, à 25 ans, Churchill démissionne pour se présenter au Parlement, sans succès. Qu'à cela ne tienne, le jeune aventureux s'embarque pour l'Afrique du Sud où la seconde guerre des bourgs vient d'éclater. Il est officiellement correspondant de guerre mais se fait vite remarquer par ses aventures rocambolesques et ses exploits guerriers. Churchill est un hyperactif, il a besoin de se retrouver au cœur des événements. Il aime plus que tout être dans le feu de l'action. Rentré en Angleterre l'année suivante, il est cette fois élu à la Chambre des communes. Bien sûr, le poste de député ne lui suffit pas. Winston Churchill progresse, et vite. Sous-secrétaire d'État à 30 ans, ministre à 32, il est nommé à l'intérieur à 35 ans, et premier lord de l'amirauté 2 ans plus tard. Rien n'arrête l'implacable animal politique. Il est aux premières loges lorsqu'éclate à l'été 1914 la Première Guerre mondiale. Mais l'offensive des Dardanelles, dont il s'est fait le promoteur, est un échec cuisant. Churchill doit donc démissionner. Un premier arrêt dans sa carrière politique dont il reste profondément affecté, tellement qu'il perd à cette période définitivement ses cheveux. Alors qu'on lui offre un poste subalterne, Churchill préfère une fois encore l'action. Il part servir pendant plusieurs mois sur le front français, cherchant aussi à réhabiliter son nom et son image. Dans les années 20, il devient chancelier de l'échiquier, c'est-à-dire ministre des Finances. Mais l'économie n'est pas son fort et ses décisions ont des conséquences terribles pour le pays. Alors, en 1929, il est à nouveau écarté du pouvoir après la défaite des conservateurs dans les urnes. Mais cette fois, l'exil va être un peu plus long. 10 ans. Une véritable traversée du désert pour un homme qui aime tant occuper le devant de la scène. Bien sûr, il ne sombre pas pour autant dans l'anonymat. Il est encore régulièrement consulté, mais il ne joue plus un rôle de premier plan. Surtout, Churchill est détesté. Par les conservateurs, la famille politique qu'il a déjà abandonnée, par les libéraux qu'il accuse d'opportunisme et par les travaillistes qui ne voient en lui qu'un aristocrate méprisant. Me voici congédié, écarté, abandonné, rejeté et détesté, écrit-il. Alors, Churchill se réfugie dans son manoir de Chartwell, dans le Kent. Il y fait de la maçonnerie, construit le mur qui entoure le potager, élève un petit cottage pour sa dernière fille, Mary, et puis il peint en extérieur ou dans l'atelier installé dans les anciennes écuries. Il peint beaucoup. On a recensé plus de 500 tableaux de sa main, des paysages du sud de la France ou du Maroc, et puis des portraits d'amis ou de la famille. Il écrit aussi beaucoup, c'est de cela dont il vit d'ailleurs, des souvenirs de jeunesse, des réflexions sur la crise économique, une biographie de son illustre ancêtre, le duc de Marlborough. Churchill fait plusieurs voyages en France ou aux États-Unis où il est renversé par une voiture d'ailleurs. Décidément, c'est une période difficile. Hein. Sa femme Clémentine et ses 5 enfants ne le vivent pas de la même façon. Pour une fois dans leur vie, ils peuvent profiter de ce mari ou de ce père si totalement accaparés par la politique. Mais Churchill n'a renoncé à rien. Farouche opposant à la politique d'apaisement face à Hitler, il n'a cessé d'alerter sur le danger nazi. En septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne et confirme ses craintes. Churchill est vite rappelé. Il retrouve sa place de premier lord de l'amirauté. En mai 1940, seul à pouvoir faire face à la situation exceptionnelle, il est nommé Premier ministre par le roi. Quand il entre enfin au 10 Downing Street, il confie à sa femme « Toute ma vie n'a été que la répétition de cette heure ». C'est la Deuxième Guerre mondiale qui va totalement révéler Churchill. Il en est le héros. Mais avec la fin du conflit vient aussi la fin de l'Union nationale. Des élections sont organisées en 1945. Alors, on pourrait penser que naturellement Churchill en soit le grand gagnant, c'est lui le vainqueur. Mmh. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe, bien au contraire. Les travaillistes écrasent les conservateurs et l'homme au cigare est éjecté, encore une fois. Churchill est effondré. Sur le livre d'or de la résidence d'été du Premier ministre Chequers, il écrit simplement « finis », la fin, en latin. Le coup est d'autant plus dur à encaisser que l'avenir du monde se joue sans lui, dans de grandes conférences internationales dont il aurait dû, pense-t-il, être l'un des acteurs principaux. Son « black dog », le nom qu'il donne à son état dépressif, revient. Insomnie, idées noires, il peint à nouveau et en profite aussi pour écrire ses mémoires. Un hobby qui est loin d'en être un, puisqu'il sera couronné tout de même du prix Nobel de littérature en 1953. À plus de 70 ans, Churchill pourrait accepter cette retraite que lui offre la vie. C'est bien mal connaître le vieux lion. En 1946, il est invité par le président Truman aux États-Unis. Il donne son célèbre discours sur le rideau de fer. Churchill est à nouveau sur le devant de la scène, qu'il n'a quitté que brièvement. En octobre 1951, il accède une nouvelle fois au poste de Premier ministre du Royaume-Uni. Mais vous savez, le monde a beaucoup changé et lui, beaucoup vieilli. Malgré de sérieux ennuis de santé, Churchill repousse sans cesse sa démission. Il se résigne enfin, en 1955, à annoncer son départ, mais il reste député et se rend encore à la Chambre des communes, à l'âge de 90 ans. Quand il s'éteint, en 1965, des funérailles nationales sont organisées et 300 000 personnes viennent une dernière fois le saluer. Le succès, avait-il dit un jour, c'est d'aller d'échec en échec, sans jamais perdre son enthousiasme.
Europe 1, historiquement vôtre.